Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir?
Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Tu sais, avec une petite julienne de légumes romarin.
Ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha.
Chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors et tombe des cordes.
Oui, et alors?
Avec les accessoires pour poissons, pizza et viande des Creative Pack, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le dossier secret de l'affaire Dreyfus est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître chez Alma Éditeur et c'est aussi le cœur d'une affaire qui depuis longtemps passionne Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce dossier secret, vous savez, ce sont les pièces de dernière minute qui ont été communiquées aux jurés du premier conseil de guerre, ce conseil de guerre qui devait condamner le capitaine Dreyfus en décembre 1894. Ces documents n'avaient même pas été communiqués dans un premier temps à la défense. Ils étaient censés peser sur la décision du jury. Ce dossier secret, bien nous allons l'éplucher ensemble aujourd'hui.
Et outre les auteurs de cet ouvrage, un grand invité surprise attend dans nos coulisses que vous lui fassiez signe d'entrée.
Oui, je pense que nombre de nos auditeurs vont être heureux de l'accueillir. C'est un de nos grands artistes, auteurs, compositeurs, interprète. Il est le petit-neveu du capitaine Dreyfus, ce qu'on ne sait pas toujours. Je vous révélerai son identité tout à l'heure si vous voulez. Je peux quand même vous donner un indice en vous disant qu'il a consacré à son grand-oncle une belle chanson.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Juillet 2006, la Cour de cassation célébrait le centenaire de la réhabilitation par ses trois chambres réunies du capitaine Alfred Dreyfus. Nous avions consacré plusieurs émissions à cette occasion, à l'affaire, bien entendu. Après 12 années d'injustice, cette décision avait mis fin à la plus grande affaire politico-judiciaire de toute la Troisième République. Une crise humaine, selon Léon Blum, aussi violente que la Révolution française ou que la Grande Guerre. Alors, je vous résume les faits à très grands traits, évidemment, mais c'est pour vous remettre dans le contexte de cette affaire. Nous sommes en 1894, donc au cœur même de la belle époque. Fin septembre, un document photographique circule à travers les bureaux de l'état-major français. Il s'agit de la photographie d'une feuille en mauvais état, complètement froissée, connue sous le nom de bordereau. Ce bordereau est censé avoir été récupéré, déjà tout froissé, dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand à Paris, le colonel von Schwarzkoppen, et elle aurait été récupérée par un modeste agent du service de renseignement, une femme de ménage, Madame Bastian. Voici le contenu du célébrissime bordereau. « Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. » Et puis, à partir de là, suivent effectivement 5 points, hein, un certain nombre de renseignements de nature militaire sur l'équipement, sur les entraînements de l'armée, sur les cadres de réserve, etc. Document terrifiant pour les services de renseignement de l'époque, parce qu'il prouve évidemment la présence d'une taupe à l'état-major, la présence d'un traître qui renseigne les Allemands. On est 25 ans après la perte de l'Alsace-Lorraine, faut pas oublier, on est alors dans une période d'ultranationalisme et de grand respect pour l'armée. Dans ces conditions, le patron du service de renseignement, qui cherche à savoir d'où provient la terrible fuite, fait circuler donc une photo de ce bordereau dans les différents bureaux de l'état-major. Or, le 6 octobre, un certain lieutenant-colonel d'Aboville se signale. Il prétend avoir reconnu l'écriture du bordereau. C'est, dit-il, l'écriture d'un de ses anciens stagiaires, un capitaine juif qui s'appelle Dreyfus. J'ai dit que l'heure était au nationalisme, elle est évidemment aussi à l'antisémitisme tous azimuts. Or, dès le 29 octobre, le journal antisémite La Libre Parole va être informé des soupçons énormes qui pèsent sur cet officier juif de l'état-major. Et vous allez voir quel rôle essentiel la presse va jouer dans cette affaire. On peut dire que cette affaire Dreyfus, c'est d'abord la grande affaire de la presse de cette fin de siècle. Le service de renseignement, pendant ce temps, consulte des graphologues et l'un des plus prestigieux, le célèbre Bertillon de la préfecture de police, conclut à la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Le 15 octobre, à 9h du matin, Dreyfus est reçu au ministère de la Guerre par un officier de police judiciaire chargé de l'enquête. On lui dicte le contenu du bordereau pour comparer les écritures, pour voir si c'est bien la même écriture. Et au bout de quelques lignes, l'officier, je cite Michel Drouin, lui met la main sur l'épaule et grandiloquent s'exclame « Au nom de la loi, je vous arrête, vous êtes accusé du crime de haute trahison ». On imagine l'angoisse, l'incompréhension, la colère peut-être du capitaine Dreyfus, nous dit Michel Drouin, l'un des plus grands spécialistes de l'affaire. Alors passons sur la mise en scène grotesque qui consiste à laisser Dreyfus seul avec une arme chargée dans l'espoir qu'il va mettre lui-même fin à ses jours. Le pauvre homme ne comprend évidemment rien à tout cela puisqu'il est parfaitement innocent. Seulement voilà, on a besoin d'un coupable et un coupable juif ferait bien l'affaire. Car très imprudemment, le ministre de la guerre a déclaré au Figaro que la culpabilité de Dreyfus était hors de doute et que lui-même en avait eu la preuve matérielle sous les yeux. Il s'est enfermé, il s'est coincé tout seul, ce ministre, il s'appelait Mercier. Autant dire que tout est joué. C'est dans un climat survolté que s'ouvre le 19 décembre le Conseil de guerre pour un procès qui ne va durer que 3 jours. Dreyfus est effondré, mais il paraît résigné. Il n'essaie même pas d'attendrir les juges militaires. Or, deux éléments vont peser très lourd dans la balance. Tout d'abord, le témoignage de l'adjoint, le numéro 2 ou 3 du SR, le commandant Henri, qui va, vous savez, alors cette grande mise en scène, il va se tourner devant les jurés. Il y a des journalistes, évidemment, dans la salle. Et il se tourne et il dit « Le traître, le voici !» Alors bon, c'est vrai. Et puis surtout, et là je demande toute votre attention, au moment de la délibération et contre toutes les règles de procédure, évidemment, le ministre de la guerre fait passer au jury, par l'intermédiaire d'un personnage très important, nous allons voir lequel dans un instant, il fait passer au jury un dossier secret censé contenir des preuves contre Dreyfus. Alors que contient exactement ce dossier secret? Eh bien c'est ce que mes invités d'aujourd'hui ont étudié dans le plus grand détail au point d'en faire un livre. Ils ont eu raison, c'est absolument capital, puisque c'est sur la foi de ce dossier secret que le capitaine Dreyfus, à l'issue d'une procédure bâclée, est déclaré à l'unanimité coupable, je cite, « d'avoir livré à une puissance étrangère un certain nombre de renseignements secrets ou confidentiels intéressant la défense nationale ». Il est condamné, vous le savez, à la peine maximale, la déportation perpétuelle après dégradation publique.
Un extrait sur Europe 1 de la musique du film réalisé par Georges Méliès en 1899. L'affaire Dreyfus, nous y venons dans un court instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Pierre Gervais, qui est maître de conférences en histoire américaine à l'Université de Paris 8, et Pauline Perrette, maître de conférences également en histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Ils sont les co-auteurs du livre Le dossier secret de l'affaire Dreyfus, disponible chez Alma Éditeur, Franck.
Avec Pierre Stutin. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de venir nous présenter ce célèbre dossier secret. Je dis célèbre parce qu'il est vraiment au cœur d'une affaire qui, ne l'oublions pas, a complètement bouleversé la société française de ce tournant du XXe siècle. Alors ce qu'il faut peut-être préciser, Pauline Perrette, c'est que le contenu de ce dossier secret, on le connaît grâce à Marcel Thomas depuis une cinquantaine d'années maintenant.
Oui, en effet, en 1961, Marcel Thomas a écrit un livre qui a fait autorité, dans lequel il livrait un état du dossier secret qui est resté comme qui est considéré depuis comme accepté par tous les historiens. Nous avons voulu revenir vers les sources. Nous avons eu la curiosité de demander au service historique de la défense de Vincennes de nous autoriser à regarder le dossier secret et d'essayer de retrouver parmi les presque 400 cotes du dossier secret de 1899 qui constitue en fait un amas de pièces d'environ 1000 pièces. Mm-hmm. Nous avons essayé de reconstituer, de retrouver le dossier secret de 1894,
celui qui a été transmis.
Le premier dossier, voilà, celui qui a été transmis en décembre 1894, lors du premier conseil de guerre.
Alors Pierre Gervais, qu'est-ce qu'il contenait, ce dossier?
Oui, bonjour, je vais vous décevoir un petit peu, on n'en est pas absolument sûr. C'est tout le but du livre, dont je déflore la fin d'une certaine façon, mais je pense que les auditeurs apprécieront de le savoir. Nous savions qu'il y avait quelques pièces dans ce dossier. Une pièce est incontestable, c'est la fameuse lettre « Ce canaille de D ».
Alors voilà, oui, bien
D,
sûr. Hein.
Pour Dreyfus, en réalité, évidemment, aucun espion alors ne ça, donnerait c'est une le nom
note,
de son...
C'est une note d'un certain Panizzardi, qui est l'attaché militaire italien.
Panizzardi, Schwarzkopf plutôt.
Oui, oui, oui. C'est une note de Schwarzkopf.
Ah, la note est de Schwarzkopf.
Oui, il y a débat là-dessus.
Panizzardi. Ah bon, mais... alors voilà, c'est
non,
ça
non,
la question.
Ce n'est pas une confusion, en fait. C'est, tout dépend de quelle partie de l'affaire, à quelle partie de l'affaire on s'intéresse, puisque l'état-major a insisté ensuite pour que la note soit de Panizzardi, pour des raisons complexes, qui tenaient à la fausse accusation. En réalité, elle est bien de l'attaché militaire allemand à l'attaché militaire italien.
Et elle est signée Alexandrine.
Elle est signée Alexandrine pour une bonne raison, c'est que l'attaché militaire allemand et l'attaché militaire italien étaient en réalité amants, en même temps que co-espions, et donc avaient une liaison assez torride. On trouve dans le dossier en question plusieurs pièces qui sont tout à fait explicites à cet égard.
D'ailleurs, il y a, vous reproduisez dans un in-folio dans l'ouvrage, vous reproduisez toutes ces pièces. Il y a une sorte de PS qui n'est pas triste.
Je ne sais pas si nous sommes autorisés à le dire à la radio.
Il s'agit
d'un terme de français un petit peu ancien, de toute façon. Donc, l'attaché allemand conclut son mot en disant ne bourrez pas trop, avec une faute d'orthographe.
ER, oui, sur quoi.
Mais enfin bon, l'intention est claire. Il s'agit donc de pièces dont nous savons que cette pièce appartenait au dossier, puisqu'elle a été citée par tous les protagonistes. En revanche, ce que nous ne savons encore pas aujourd'hui, c'est quelles autres pièces l'accompagnaient. Et nous ne savons pas non plus dans quelle mesure l'état-major n'a pas utilisé la liaison homosexuelle pour faire condamner Dreyfus.
Et c'est tout l'intérêt, enfin c'est un des grands intérêts en tout cas de votre ouvrage, le dossier secret de l'affaire Dreyfus chez Alma Éditeur, c'est précisément de montrer que à tout le climat d'antisémitisme vient s'ajouter également toute une question autour de l'homosexualité. Il y a une forme d'homophobie, si j'ose commettre cet anachronisme énorme, puisqu'on parle de phénomènes d'il y a un siècle et qu'à l'époque l'homophobie faisait, j'allais presque dire, partie des références naturelles de la société. Mais en tout cas, cette question d'une liaison entre ces deux attachés militaires va jouer un rôle très important. Elle va en quelque sorte alourdir encore le climat et peut-être et probablement peser sur la décision. C'est ce que nous voyons dans un instant.
Je suis un peu ton fils et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable.
Extrait de l'album Touché, Yves Dutheil sur Europe 1 avec Dreyfus.
Europe 1.
Vous aimez le théâtre, vous appréciez certainement Sacha Guitry. Si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous proposons de gagner des places pour aller voir Kadri, c'est au théâtre Édouard VII à Paris, avec notamment François Berléand et Florence Pernel, une mise en scène signée Bernard Murin, spectacle Europe 1 bien évidemment. Alors n'hésitez pas à tenter votre chance, inscrivez-vous gratuitement, club.europe1.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Vous avez bien compris que c'est Yves Dutheil qui va notre nous rejoindre, invité. Évidemment, qui est donc petit-neveu du capitaine Alfred Dreyfus. Enfin, je dis du capitaine qui est devenu commandant par la suite. Enfin, n'avançons pas trop vite en besogne et revenons à ce célèbre dossier secret qui, pendant très longtemps, est resté aussi secret que son nom l'indique. Il faut insister sur cet aspect-là, Pauline Perretz.
Oui, en effet, il est resté secret parce que, comme vous l'avez dit, il a été produit donc au moment de la délibération des juges du Conseil militaire à huis clos, à l'insu de la défense et donc en violation des droits et donc représentant par là même une forfaiture majeure.
Pour la petite histoire, on peut préciser que l'officier qui va transmettre physiquement le dossier aux différents membres du jury, c'est un certain Picard qui par ailleurs, et très vite, va jouer un rôle essentiel dans cette affaire. Je vais y revenir dans un instant dans le cadre du récit. Alors, concrètement, qui a décidé de réunir ces pièces et pourquoi ces pièces-là? Parce que finalement, c'est la grande question qui se pose, Pierre Gervais.
Oui, le ministre Mercier et surtout le chef des services secrets français, le colonel Sander, qui est quelqu'un d'extrêmement puissant à l'époque, c'est ce qu'on a un petit peu découvert avec notre livre en y travaillant, c'est véritablement...
C'est le grand patron du renseignement.
Hein. C'est du renseignement politique, du contre-espionnage et de l'espionnage français. Il a dans ses mains tout l'appareil de sécurité nationale, comme on l'appellera plus tard, y compris jusqu'au garde champêtre qui lui envoie des rapports réguliers à partir de toutes les communes de France. Mmh. Donc il s'agit de quelqu'un d'extrêmement puissant. Le problème est que Dreyfus est accusé sans preuve. Ces hommes sont persuadés que Dreyfus est coupable, pour les raisons que vous avez soulignées. Et donc ils vont ramasser dans les dossiers qu'ils ont volés dans les différentes ambassades françaises, puisqu'il s'agit en fait d'une énorme organisation qui pille toutes les ambassades étrangères, tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin à Dreyfus. C'est la raison pour laquelle ils glissent ces pièces au jury. Ajoutons que ça n'est probablement pas la première fois. Il y a eu d'autres affaires qui ne touchaient pas des officiers, qui touchaient des gens de rang beaucoup plus modestes, qui n'ont pas été défendus. Donc, mais probablement dans les années précédentes, le même mécanisme a été utilisé contre certaines personnes soupçonnées.
Comment avez-vous pu procéder à partir de tous les documents qui figuraient dans le carton, enfin dans les dossiers que vous avez eu à étudier, Pauline Peretz? Comment avez-vous procédé pour déterminer ceux qui faisaient ou non partie du célèbre dossier?
Alors que nous sommes des historiens du contemporain, on s'est dit qu'on allait emprunter les méthodes des médiévistes.
Et, ben voilà.
Et on a donc fait plus attention qu'on ne le fait d'habitude aux marques d'archives, aux traces d'archives et notamment aux numérotations administratives successives. Et en faisant bien attention, il nous est apparu qu'il y avait 8 numérotations différentes et une seule numérotation ne portait que sur un nombre limité de pièces qui formaient une suite cohérente et qui était datée d'avant novembre 1894.
La numérotation en rouge.
La fameuse numérotation plume rouge, en effet, qui se distingue des autres numérotations qui sont écrites avec d'autres crayons et plus tardives. Ce qui nous a frappé dans cette suite cohérente, c'est que se dégageait de cette suite cohérente une narration de l'accusation qui nous paraissait intéressante, originale et dans laquelle on retrouvait aussi les pièces qui étaient considérées par Marcel Thomas et depuis donc par l'exposition canonique du dossier secret, les pièces centrales et en particulier Canaille de D. Ce qu'on a trouvé d'autre...
Pardon, parce que certains nous rejoignent peut-être et puis même ceux qui ne nous rejoignent pas ne sont pas forcément très familiers de cette très complexe affaire Dreyfus. Il faut réexpliquer pourquoi vous appelez ça Canaille de D. Il faut dire aussi que tous les documents de cette affaire Dreyfus, le petit bleu, etc., chaque document a un surnom. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour s'y repérer, parce que sinon on n'en sortirait pas. On ne peut pas citer les pièces par leur numéro. Donc en fait, elles ont un surnom. Alors ce Canaille de D, c'est le fameux billet d'échange entre deux attachés.
Alexandrine, mais donc entre Schwarzkoppen, donc le billet de Schwarzkoppen à Panizzardi, dans lequel il lui dit j'ai à votre 6 juin 12 plans directeurs de Nice que ce Canaille de D m'a donné pour vous.
Donc, alors D, on s'est dit Canaille de D, donc Dreyfus.
Donc Dreyfus. Or, rien ne prouve que c'est Dreyfus, mais D est le seul élément qui pouvait être à charge contre Dreyfus dans ce dossier secret. En revanche, ce qu'on trouve finalement de manière plus présente que des insinuations d'espionnage, c'est la révélation, la mise au jour d'une relation homosexuelle entre ces deux attachés militaires qui correspondent de manière très régulière et qui parlent en même temps que de leurs activités d'espionnage de leur relation sexuelle et de leur amour et de leur rapport physique.
Oui,
et donc on a essayé on était un peu consternés puisque l'historiographie ne parle quasiment pas de ce point-là.
On l'a dit quand même,
Jean-Denis Brodin,
oui. Notamment, oui.
Ouais, notamment en avait donner une translittération, pardon, il avait recopié une retranscription, voilà le mot que je cherchais, extensive dans son livre, mais pour autant jamais ça n'avait fait l'objet d'un commentaire. Donc nous avons voulu essayer de comprendre ce que cette présomption d'association à un réseau homosexuel cosmopolite pouvait impliquer pour Dreyfus.
Et voilà, et ça implique, on va dire, une sorte de... Ça modifie le climat, quelque part, Pierre Gervais.
Oui, alors Dreyfus n'a évidemment jamais été accusé de quoi que ce soit en ce domaine. C'était un bon père de famille, extrêmement fidèle à sa femme, et malgré tous les efforts de l'état-major, il n'a jamais été convaincu d'aucune aventure, même après son mariage.
Ça aurait bien arrangé un certain nombre de personnes de dire c'est encore les juifs et les homosexuels.
Alors voilà, en revanche, voilà, ça pouvait être fait sans nécessairement trouver des preuves, puisqu'on pouvait très bien dire, voilà, après tout, il est juif, ce sont deux... homosexuels invertis, comme on les appelait aussi à l'époque, où on les pervers facilement, on les traitait d'un certain nombre de qualificatifs tout à fait péjoratifs. Et donc, il est associé par amalgame, par association, juif, homosexuel, tout ça, c'est un petit peu la même chose, étranger aussi.
Il y a un autre chercheur qui, à la fin des années 60, avait mis le doigt aussi, mais de façon beaucoup moins détaillée que vous, sur cet aspect. C'était Henri Guillemin, et qui, Henri Guillemin, dans son énigme Esterhazy, est l'auteur d'une explication assez lumineuse des tout débuts de l'affaire Dreyfus. Il explique d'où est née cette affaire et pourquoi le colonel Sander a fait circuler dans l'état-major la célèbre photographie du bordereau. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du troisième homme, dont j'ai eu à traiter, moi, par ailleurs, dans un ouvrage il y a des années. Nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans toute la polémique soulevée par cet aspect-là. Mais disons que Guillemin avait, lui aussi, mis le doigt et l'accent sur cette dimension homosexuelle, hein, des rapports entre les attachés militaires italiens et allemand. Dans un instant, nous allons reprendre le cours de cette affaire Dreyfus, aller un peu plus loin pour avancer et voir quelles ont été les invraisemblables conséquences de ce sac de nœuds.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous fait maintenant reprendre sur Europe 1 le fil de l'affaire Dreyfus.
Oui, le deuxième acte de ce drame, vous savez, s'ouvre sur l'entrée en scène d'un nouveau personnage. Et en fait, il s'agit donc de cet officier qui, au nom du ministre de la Guerre, avait remis le dossier secret au juge militaire au moment de leur délibération. À 42 ans, en avril 1896, le lieutenant-colonel Georges Picard est le plus jeune dans son grade pour l'armée française. Il faut imaginer quelqu'un d'assez élégant, peut-être même un peu précieux, pour aller dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure, tout à fait antisémite, et d'ailleurs il ne s'en cache pas. C'est lui qu'on a nommé pour remplacer le colonel Sander à la tête du service de renseignement, et dès sa prise de fonction, il reçoit comme mission prioritaire de renforcer le dossier Dreyfus en prévision de tentatives que pourrait tenter la famille en faveur d'une révision. On blinde le dossier, comme on dit. En mars, comme on dit nous maintenant, en mars 1896, Madame Bastian remet son carnet de notes directement à Picard, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas. Or, dans la manne, vous savez, elle continue de ramasser ce qu'elle trouve à l'ambassade d'Allemagne, se trouve un document qui va prendre le nom de Petit Bleu. Il s'agit en fait d'une carte télégramme adressée au commandant Esterhazy et qui le désigne comme agent de renseignement de l'Allemagne. Et évidemment, Picard est stupéfait, il se renseigne tout de suite sur cet Esterhazy. Non seulement ce qu'il découvre est peu édifiant, mais il voit qu'il y a des liens extrêmement étroits entre cet Esterhazy et son adjoint, Henri, qui était déjà l'adjoint de Sander. Picard se pose la question, est-ce qu'Henri n'aurait pas accablé Dreyfus pour protéger Esterhazy? Or, justement, Esterhazy, qui se sait sur le point d'être muté, a fait une demande pour rentrer au service de renseignement. Je dis bien rentrer, parce qu'il y avait déjà été dans le passé. Picard demande son dossier, et là, surprise, mais qu'est-ce que je dis? Stupéfaction, l'écriture que découvre Picard est exacte, donc l'écriture d'Esterhazy, est exactement celle du bordereau. Le dossier est aussitôt soumis à Bertillon, le fameux graphologue, qui déclare « Ah oui, c'est que les Juifs exercent quelqu'un à imiter l'écriture du bordereau. » Vous voyez dans quel délire on est arrivé quand même. Du coup, cela dit, il y a tellement d'autres affaires sur lesquelles on pourrait citer des aberrations du même genre. Mais enfin, je vais faire très vite cette parenthèse. Du coup, Picard s'intéresse à nouveau de très près au dossier Dreyfus. Il se fait communiquer le dossier secret qu'il avait naguère lui-même transmis au juge militaire. Picard acquiert dès lors une certitude. On s'est trompé de coupable. On a commis une erreur judiciaire effroyable. Picard file alors chez ses supérieurs et il y a tout de suite un mot d'ordre. Il faut séparer les deux affaires. « Je n'emporterai pas ce secret dans ma tombe », déclare Picard. Et du côté de l'état-major, à ce moment-là, on commence à s'inquiéter, évidemment. Or, entre-temps, la presse a fini par relever l'existence du fameux dossier secret qui nous intéresse aujourd'hui. Une arme inespérée pour la famille du capitaine Dreyfus. Mais comme par miracle, une nouvelle pièce à charge est versée au dossier. Il s'agit d'une nouvelle lettre de Panizzardi à Schwarzkoppen. Et cette fois, dans cette lettre figure nommément le nom de Dreyfus. Plus tard, cette pièce prendra le nom de Faux Henri. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit évidemment d'un faux. Précision importante, la pièce en question n'est pas communiquée à Picard. Du reste, Picard il commence à gêner beaucoup et on cherche un moyen de s'en débarrasser au plus vite. Ce moyen, c'est la presse qui va le fournir. Le 10 novembre 1896, Le Matin publie un fac-similé du bordereau, fourni par un des experts. On accuse Picard d'être à l'origine de la fuite, à tort, mais qu'importe, il est aussitôt envoyé en mission dans l'Est. Coup de théâtre. Parmi les lecteurs du Matin, il y a Schwarzkoppen, le fameux attaché militaire allemand, et lui va affirmer que jusque-là, il n'a jamais vu le fameux bordereau prétendument ramassé dans sa corbeille. Or, il reconnaît cette écriture, mais seulement il ne peut pas dire de qui elle vient l'écriture, puisqu'on ne grille pas un agent, n'est-ce pas? Il ne peut pas dire que c'était Esterhazy. Assez vite, Picard est envoyé en Algérie, puis en Tunisie, le plus loin possible. Il rumine et au cours d'une de ses permissions, il va parler à un de ses amis qui, sidéré de ce qu'il apprend, s'en va avertir le vice-président du Sénat, un Alsacien nommé Scheurer-Kestner. Il mène sa propre enquête, ce Scheurer-Kestner, ce qui inquiète évidemment beaucoup l'état-major. Esterhazy est menacé, tout le monde en est bien conscient, il va falloir le prévenir. Alors, on lui adresse pour le mettre en garde une première lettre anonyme. Et puis en octobre 97, le même agent du SR qu'on a vu un certain nombre de fois intervenir dans cette affaire est complètement déguisé, va aller le rencontrer dans les allées du parc Montsouris. On est dans une scène de guignol. Or, pendant ce temps, Scheurer-Kestner s'est procuré des spécimens de l'écriture d'Esterhazy et il les a comparés aux facsimilés du bordereau. Pour l'état-major, là, on peut dire que les choses commencent à sentir le roussi. Du reste, il est un fait qui ne trompe pas. Von Schwarzkoppen est rappelé à Berlin. C'est l'usage lorsqu'un agent est grillé. On s'achemine à grands pas vers une révision du procès. À l'état-major, on s'énerve. Picard est rappelé à Paris où on lui reproche d'avoir mis en péril, je cite, « la respectabilité d'un honnête officier français, c'est Esterhazy dont on est en train de parler comme ça. » Autant dire que c'est le monde à l'envers. Heureusement, le Figaro va publier le 28 novembre une ancienne lettre adressée par Esterhazy à l'une de ses maîtresses. Une lettre où l'on peut lire un certain nombre de termes quasiment injurieux contre les Français. On va appeler cette lettre la lettre du Uhlan. Il s'agit d'un faux, clame Esterhazy. Et le lendemain, le Figaro publie la copie du bordereau pour se justifier. Mais à partir de ce moment-là, le bordereau est public et chacun va pouvoir juger de la ressemblance entre la pièce qui a accusé Dreyfus au départ et l'écriture d'Esterhazy. Esterhazy perd patience, il demande lui-même à comparaître en conseil de guerre et on va lui donner satisfaction. Le 10 janvier 98, le procès Esterhazy s'ouvre donc devant le conseil de guerre. En vérité, ce sera surtout le procès de Picard, c'est ce qui est invraisemblable dans cette histoire. Et à l'issue de débats entièrement truqué, le verdict est rendu à l'unanimité. Esterhazy est acquitté et la foule qui est là à la sortie devant le palais de justice l'acclame. Vive la France ! Mort aux Juifs ! Mais le plus fort, c'est que Picard est inculpé de faux, qu'il est arrêté, qu'il est envoyé aux arrêts de forteresse au Mont Valérien. Quand je vous dis que dans cette affaire, tout, on marche complètement sur la tête. C'est alors que, comme un éclair au milieu des ténèbres, Émile Zola va sortir de sa réserve. Vous savez que le grand écrivain, outré par la tournure qu'ont pris les événements, publie dans l'Aurore sa fameuse lettre ouverte au président Félix Faure, lettre titrée « J'accuse » par Clémenceau. « J'accuse », écrit Émile Zola, « le général de Boiseffre et le général Gonse d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse le général de Pellieu d'avoir fait une enquête scélérate. » Ça, c'est l'enquête du procès Esterhazy. « J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. » Vous voyez que notre dossier secret reste toujours au cœur de l'affaire.
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable.
La voix indignée de Jean-Claude Drouot, qu'on reconnaît évidemment et qui prête la sienne évidemment à Émile Zola. On peut dire que de ce fameux jour de janvier 98 date le début de l'affaire proprement dite, l'affaire avec un grand A. Ça devient une affaire publique, politique, majeure, avec l'engagement dans un camp puis dans un autre d'un certain nombre de personnalités, la naissance même de la notion d'intellectuel en France. Zola voulait un procès et évidemment il va l'avoir. Avec les accusations qu'il a portées, c'était évident, c'était le but. Ce procès se tient du 7 au 23 février 1998. Alors, le président va repousser toute tentative d'aborder l'affaire au fond. Cependant, pendant le procès, il y a un coup de théâtre. Le général de Pellieu, donc ce de Pellieu qui a mené l'enquête contre Esterhazy, pressé par la défense de Zola, révèle naïvement l'existence de cette pièce si douteuse qu'on appelle le faux Henri. Ça, c'est une erreur, une terrible erreur. Il faut que Boisdeffre vole à son secours, en appelle au patriotisme des jurés, à leur sens des responsabilités. Une fois de plus, c'est le chantage à la guerre. Il ne faut pas oublier le contexte de toute cette affaire, bien entendu. Finalement, à 8 voix contre 4, le jury condamne Zola, qui écope de la peine maximale, 1 an de prison et 3000 francs d'amende. Alors, on sait ce qui va se passer. Il va faire appel. Entre-temps, il va partir lui-même en exil. L'affaire vraiment devient de plus en plus houleuse. On peut dire qu'elle passionne la France au plus haut degré à ce moment-là. Et le ministre Cavaignac, le 7 juillet, monte à la tribune de la Chambre des députés. Et là, avec une candeur qui frise l'inconscience, il va rendre public 3 des pièces du célèbre dossier secret qui, comme vous le voyez, est constamment au cœur de cette affaire.
Sur Europe 1 du générique de l'affaire Dreyfus, une réalisation signée Yves Boisset. A tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec une émission consacrée au dossier secret de l'affaire Dreyfus, nous sommes toujours sur Europe 1 avec les historiens Pierre Gervais, Pauline Perretz et Yves Dutheil nous a rejoints.
Et oui, bonjour Yves Dutheil, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, merci à vous.
Ça vous a marqué cette affaire et pour cause, puisque vous êtes, vous, de la famille du capitaine Dreyfus.
Oui, on a porté cette ombre sur notre vie pendant toute notre enfance, adolescence et même notre âge adulte. Donc quand j'entends le récit tel que vous l'avez remarquablement fait, je revois à quoi je me suis attaqué quand j'ai décidé d'écrire une chanson sur l'affaire.
Oui, c'est une affaire d'une complexité folle et d'une importance très considérable. Elle a marqué les consciences de son temps.
Elle a marqué les consciences et il faut savoir que dans une famille, quand on est un peu l'héritier d'une telle affaire nationale et d'une affaire qui a bouleversé la conscience du monde, on porte ça comme un fardeau et en même temps, à un moment donné, on a envie de le porter comme un flambeau. On a envie d'apporter un autre éclairage, un éclairage qui manque à l'affaire, puisque Dreyfus, dès le départ, a été mis au secret. Et qu'il a été le grand absent de toute l'affaire. Et donc, il fallait redonner un visage à Dreyfus, puisque l'histoire lui avait conféré cette image un peu antipathique, cette personne qui faisait un coupable idéal, alors qu'en réalité, sa vérité à lui, c'était d'être un homme très affectueux, un homme très proche de ses enfants, et un homme loyal, courageux.
Alors justement, Yves Dutheil, vous avez, vous, un certain nombre de témoignages. On vous a parlé, évidemment, de ce capitaine Dreyfus. Vous connaissez un certain nombre d'anecdotes familiales, en quelque sorte. On va y venir dans un moment et vous allez nous raconter tout cela, bien entendu. Avant ça, Pierre Gervais, il faut que nous concluions l'affaire, parce que là, j'en suis resté, moi, à Émile Zola, à la condamnation de Zola, qui s'en va, donc qui va partir en exil avant qu'il ne soit définitivement condamné en appel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas au bout de l'affaire Dreyfus. Il y aura ensuite un procès en révision en 99, le procès de Rennes.
Oui, en pratique, si on est au bout pour une raison simple, le dossier secret en question, celui qui est introduit contre Zola, est un nouveau dossier secret avec plusieurs faux, pas seulement le faux Henri, et il ne supporte pas la lumière. Il est clair dès l'été 1898 que ces faux sont faux. Le colonel Henri est découvert, se suicide, ce qui rend inévitable la révision par la Cour de cassation qui prend la décision, malgré une forte opposition politique, au printemps 1899. Le deuxième conseil de guerre de Rennes en 1899 recondamne Dreyfus pour des raisons essentiellement politiques, mais même alors, avec les circonstances atténuantes, ce qui n'a aucun sens dans un procès en haute trahison, évidemment. En réalité, même les jurys du conseil de guerre de Rennes sont probablement convaincus de l'innocence de Dreyfus. Le président le gracie, mais Dreyfus, qui est effectivement central.
La grâce du président de la République, là, il faut
expliquer. Président de la République.
Alors, évidemment, les défenseurs de Dreyfus n'étaient pas favorables à cette grâce.
Ils étaient très divisés. Certains auraient préféré continuer un combat de principe. Dreyfus est fatigué, on le comprend. Il a passé 5 ans au bagne. Mais d'un autre côté, il relance tout de suite une procédure en révision pour être définitivement blanchi, ce que la Cour de cassation lui offrira à la fin d'une enquête minutieuse en 1904-1906. Alors, la réhabilitation est prononcée en 1906. Et l'affaire est parfaitement claire à cette date.
Deux petites questions toutes simples, mais dans ce premier dossier secret que vous analysez, est-ce qu'il y avait des faux en tant que tels ?
Nous pensons que non, et il semblerait que non. Il s'agissait simplement de pièces à l'appui
et alors,
dans cette correspondance entre attachés que les militaires estimaient comme utiles.
Dans ce dossier, il n'y avait donc pas de faux en tant que tel, mais comment étaient présentées les pièces, les fameuses pièces à l'appui ?
Il s'agissait d'originaux. Il s'agissait des originaux dérobés dans les corbeilles à papier des attachés.
Mais qui n'étaient pas présentés, il n'y avait pas de texte pour les présenter.
Il y avait un commentaire qui l'accompagnait, qui a été perdu, puisque la version que nous connaissons à l'heure actuelle, qui a été fournie en 1904, est une version qui est au mieux douteuse. Elle contient des éléments dont on peut penser qu'ils ont été rajoutés ensuite. Donc nous ne sommes pas sûrs de ce qui a été dit autour de ce dossier secret, ou plus exactement écrit, et qui a convaincu les jurés. C'est un des problèmes, évidemment.
Mais vous dites bien, vous employez le terme « convaincu les jurés ». Pauline Peretz, sur la foi de quoi ce premier conseil de guerre a-t-il condamné le capitaine Dreyfus, alors qu'on n'avait finalement aucun élément concret, on n'avait aucune preuve irréfutable à lui opposer. Quelle est la conclusion, en quelque sorte, de votre travail ?
Ça, c'est la grande difficulté à laquelle est confronté l'historien. C'est que notre hypothèse, qu'on assume comme hypothèse étayée, sur la base des travaux archivistiques et aussi de recoupement de témoignages qu'on a fait, c'est que ce dossier secret tel qu'on l'a reconstitué aurait créé un effet de sursaut, un sursaut moral, qui aurait conduit les juges du Conseil de guerre à être juste ulcérés, choqués, gênés par une association possible entre Dreyfus, cet homme dont on voulait les persuader qu'il était coupable, et cette société cosmopolite dont on a parlé rapidement, faite d'attachés militaires espions à Paris.
Société cosmopolite homosexuelle, hein, donc qui crée ce climat pour l'époque extrêmement douteux, en quelque sorte.
Hein. Il est évident qu'il y a très peu de tolérance à l'époque, on n'en parle pas.
Il y a un glissement judaïsme-homosexualité.
Tout à fait, ouais. Ce sont deux dimensions qui sont très parallèles dans les imaginaires de l'époque, qui sont rajoutées à la xénophobie, qui est un élément important. Il s'agit d'un Allemand et d'un Italien, ce sont des étrangers qui vont à Montreux, au bord en Suisse, pour se livrer au plaisir. Il y a une dimension sexuelle et pas homosexuel, puisque dans le dossier de deuxième manière, bourré de faux, on rajoutera même une correspondance amoureuse entre l'attaché militaire allemand et une femme de diplomate hollandais pour corser et épicer encore l'affaire.
Et même le faux Henri, excusez-moi, mais peu, si on est au courant de cette dimension homosexuelle possible, laisser entendre qu'il y a cette présence d'une relation homosexuelle entre les deux hommes.
Alors j'ai cité votre ouvrage à bien des reprises, hein, le dossier secret de l'affaire Dreyfus chez Alma Edith, donc de Pierre Gervais, Pauline Peretz et Pierre Stutin. Pierre Stutin, c'est l'informaticien de l'affaire, car vous avez fait un énorme, certes, mais vous avez fait un énorme travail de mise en ligne. Hein, c'est toujours très important et intéressant, ça, pour notamment pour nos auditeurs, et tout simplement pour aller consulter l'incroyable dossier que vous consacrez à l'affaire et qui va bien au-delà de votre ouvrage. Il suffit d'aller sur le site www.affairedreyfus en un seul mot, affairedreyfus.com.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
la peur et des soldats tout autour qui hurlent dans des haut-parleurs. Les wagons refermés comme un tombeau. Des mains se tendent à travers les barreaux. Mais leur appel est resté sans écho. On a compris bien trop tard l'horreur qu'ils ont vécue. La blessure dans les regards de ceux qui en sont revenus. Les yeux couleurs de sang et de brouillard. Des barbelés gravés dans leur mémoire. Mais dans le cœur, un indicible espoir. Vivre un jour, une heure là-bas, c'est braver le silence. Dépasser la mort d'un pas devant ceux qui s'enivrent et dansent. Dans ce voyage infernal où tant d'âmes ont sombré, celui qui sauve une étoile éclaire l'univers tout entier.
Yves Dutheil sur Europe 1 avec la chanson des Justes. Nous nous intéressons au dossier secret de l'affaire Dreyfus. Vous êtes nombreux à réagir, Franck.
Eh oui, Yves Dutheil est un grand poète, nous dit Catherine par Internet. Il enlace les mots de toute sa douceur mêlée à une force tranquille tellement rassurante. Excellent musicien, il accompagne sa guitare sur des chemins escarpés mais tellement beaux. Plus encore, c'est un citoyen engagé puisqu'il a été et peut-être est encore, nous dit-elle, le maire de sa commune. Quand j'écoute cette chanson rappelant son histoire ancestrale, je ne parviens jamais à retenir une larme. En fait, elles sont toujours bien nombreuses. Voilà un bel hommage de Catherine. C'est une chanson, cette chanson des Justes, qui vous est évidemment inspirée par toute cette histoire familiale, Yves Dutheil.
Oui, je crois que c'est l'héritage de Dreyfus qui fait que je suis tellement attaché à la justice, à la vérité, à la liberté, et qui m'a donné envie d'écrire une chanson, d'une part sur la Shoah, mais surtout sur les Justes, c'est-à-dire cette part de l'humanité qui a rattrapé l'autre, qui a racheté cette horreur.
Ceux qui ont fait du bien.
De la barbarie.
Contre voilà. Le mal. Oui.
Ceux qui ont eu le courage, dans un escalier, d'ouvrir leurs portes en disant à des gens qu'ils ne connaissaient pas, entrez. Et ça, au risque de leur vie. Donc, c'est effectivement une chanson que j'ai mis longtemps à écrire et qui m'a été inspirée par ce sentiment de justice qui m'avait déjà inspiré la chanson sur Dreyfus.
Alors, il faut que vous nous expliquiez exactement qui était Alfred Dreyfus par rapport à vous. Et comme ça, on va comprendre comment on en parlait et de quelle façon dans votre famille.
Alfred Dreyfus était mon grand-oncle. Lucie, l'épouse admirable d'Alfred Dreyfus, c'était la sœur de ma grand-mère.
Voilà.
Alice, qui était une Adamar, comme Lucie. Et je crois que quand j'ai eu cette idée d'écrire la chanson, j'ai d'abord fait appel à ma tante, qui était la nièce de Dreyfus et qui l'a très bien connue. Et aussi à Simone Perle, qui était sa petite-fille. Et toutes les deux m'ont apporté tous les éléments, parce que dans cet enchevêtrement de mensonges et de calomnies et de fausses pistes, parce qu'il faut dire quand même qu'il y avait beaucoup de fausses pistes, il fallait savoir à quel livre faire confiance, à quelle histoire faire référence, et surtout être dans le respect de la vérité historique.
On parlait dans la famille de cette affaire. Est-ce que c'était une chose dont on parlait souvent ou est-ce qu'au contraire c'était plutôt tabou,
si Non, c'était complètement tabou dans ma famille, mais pas dans celle de Dreyfus. Mmh. Et je me suis appuyé sur ceux qui en parlaient. Et mon but secret, j'avoue, en écrivant la chanson, c'était que l'État, qui ne l'avait pas encore fait, reconnaisse l'innocence de Dreyfus. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, la justice l'avait fait en le réhabilitant. Mais en réalité, l'État ne l'avait jamais fait. L'armée non plus. Et j'espérais que ça provoque un mouvement de prise de conscience, et ça l'a provoqué. Et je ne sais pas dans quelle mesure, je crois que j'aurais l'humilité de ne pas prétendre être l'artisan de ça, mais je crois qu'il y a eu une grande chaîne de l'honneur à travers tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait. Et il y a eu une lettre du président de la République en 1998, donc 100 ans après l'affaire, qui a évoqué l'innocence.
Notre chanson était dans l'album Touché, c'était en 97, il faut dire, cette chanson qui s'appelait tout simplement Dreyfus.
C'est-à-dire, indépendamment de toute datation, je n'ai pas du tout réalisé qu'il allait y avoir le centenaire de J'accuse un an après. Et Chirac a écrit une lettre magnifique aux familles de Dreyfus et de Zola pour déclarer en fait qu'il était innocent et victime d'une machination d'État.
Ce qui est assez frappant, on connaît le célèbre ouvrage « L'affaire sans Dreyfus », mais c'est assez étonnant de voir que dans toute cette affaire Dreyfus, le personnage même du capitaine est pour le moins absent. Il n'est là vraiment qu'au moment des procès, on ne l'entend pas, il ne s'exprime pas, il est un peu le muet de cette histoire.
Il est complètement absent et en fait on se rend compte qu'il est un personnage central, un anti-héros. Il le dit d'ailleurs lui-même dans les ouvrages qu'il a pu écrire après. Il est rentré dans le rang. Et je citerai en fait une phrase qui était reprise par Peggy, mais dite par Bernard Lazare, qui dit « Je ne sais pas ce qu'ils veulent à Dreyfus parce qu'il a été condamné injustement. On lui demande tout. On voudrait qu'il ait toutes les vertus. Il est innocent. » Et c'est déjà beaucoup.
Et c'est déjà pas mal, oui, c'est effectivement. J'aimerais que vous nous lisiez, si vous voulez bien, Yves Dutheil, un extrait d'un discours que vous avez prononcé, justement, sur Alfred Dreyfus.
Oui, c'était à Médan, lors du pèlerinage, et on m'avait demandé
d'écrire... Pèlerinage à Zola, hein, il faut dire qu'il y a lieu tous les ans au mois d'octobre. Oui.
À la maison de Zola. Mm-hmm. J'avais écrit, en fait, j'avais remarqué que Zola était un photographe extraordinaire. Et il avait écrit, il avait fait publier des photos magnifiques. Et donc je disais qu'il avait pris avec l'affaire Dreyfus un instantané de son époque, et en développant le négatif pour l'aurore, l'image est apparue en positif sur son papier sensible, et il a obtenu un tirage exceptionnel. Il ne savait pas encore que ce serait pour lui une épreuve, un agrandissement, dans des proportions gigantesques. Alors ne laissons pas jaunir ce chef-d'œuvre, aucune retouche n'est nécessaire 100 ans plus tard, pas un mot à changer dans J'accuse, c'est une photographie de la conscience humaine.
Une photographie de la conscience humaine, c'était Anatole France qui avait parlé d'un moment de la conscience universelle, hein, c'est ça. Et là, il y a quelque chose de sensible, en fait, dans ce.
Oui, et puis, bon, Zola a écrit une phrase aussi très belle après la grâce de Dreyfus, qui l'a conduit, hélas, à être fâché avec son défenseur Laborie. Il peut dormir tranquille et confiant dans le doux refuge familial et compter sur nous. Pour sa glorification, c'est nous les poètes qui donnons la gloire et nous lui ferons la part si belle. Ça m'a rempli d'une sorte de mission, d'une certaine façon.
Oui, vous avez l'impression d'être celui qui doit porter la parole si longtemps tue, en quelque sorte.
Et j'ai l'impression que je vais vivre longtemps avec lui, avec Dreyfus, et je crois que c'est une très grande fierté pour notre famille aujourd'hui. Madame Lucie Dreyfus a été hébergée à la fin de sa vie chez les sœurs de Valence. Et elle était hébergée sous le nom de Dutheil. Et donc, quand elle devait faire extrêmement attention, parce qu'elle était d'ailleurs voisine de la sœur du commissaire aux questions juives, Xavier Viala.
Oui.
Et donc, il fallait qu'elle soit très prudente dans tout ce qu'elle disait, parce qu'elle risquait gros. Quoi.
Évidemment. Je cite Yves Dutheil chez l'Archipel, un très bel album qui vous est consacré avec Alain Vaudrasca, qui s'appelle « Profondeur de chant ». Et puis, bien entendu, la chanson des justes, dont on entend quelques accents en ce moment même, est sur l'album « Flagrant délice » qui vient de paraître là, « Flagrant délice ». Vous serez d'ailleurs en concert à Paris à partir du mois de janvier prochain au Trianon. Hein.
Oui, absolument. 10 et 11 janvier. Peut-on un jour apprendre ?